Chapitre 19. Baissant les yeux, John Isidore vit ses propres mains agrippées aux poignées jumelles de la boîte à empathie. Il les contemplait encore, bouche bée, quand les lumières du séjour s'éteignirent d'un seul coup. Dans la cuisine, il vit Pris se hâter d'attraper la lampe de table.
« Écoutez, J.R. »
lui chuchota durement Irmgard à l'oreille. Elle l'avait saisi à l'épaule. Ses ongles aigus s'enfonçaient dans sa chair avec frénésie. Elle ne semblait plus consciente de ce qu'elle faisait à présent. Son visage s'était déformé dans la faible lumière nocturne venue de l'extérieur. Elle s'était transformée en une petite créature effrayée, avec de minuscules yeux sans paupières.
« Il faut que vous alliez à la porte quand il frappera. Si jamais il frappe, montrez-lui votre carte d'identité et dites-lui qu'il n'y a personne d'autre que vous dans cet appartement. Et demandez à voir son mandat. Ne le laissez pas entrer, J.R. »
murmura Pris, qui se tenait de l'autre côté, le corps tendu.
« Dites-lui n'importe quoi. Faites quelque chose pour l'arrêter. Vous savez ce qu'un chasseur de primes ferait si on le laissait entrer. Vous comprenez ce qu'il nous ferait ?»
Isidore s'éloigna des deux androïdes pour s'approcher à tâtons de la porte. Ses doigts localisèrent le bouton et il s'immobilisa, tous les sens aux aguets. Il pouvait sentir le hall de l'autre côté, semblable à ce qu'il avait toujours été. Inoccupé, dénué de vie, juste rempli d'écho.
« Vous entendez quelque chose ?»
sentit Roy Beatty en se penchant près de lui. Isidore sentit alors l'odeur fétide qui émanait de son corps. La peur en suintait, en émanait, l'entourant telle une brume.
« Allez jeter un œil dehors. »
Isidore s'exécuta. L'air avait une certaine transparence à l'extérieur, en dépit de la poussière. Le spécial tenait toujours l'araignée que Mercer lui avait donnée. S'agissait-il bien de celle que Pris avait taillée avec les ciseaux à ongles d'Irmgard Beatty? Sans doute pas. Mais jamais il ne le saurait. Quoi qu'il en soit, celle-ci était vivante. Il la sentait remuer à l'intérieur de sa main fermée, sans pour autant le mordre. Les mandibules des petites araignées avaient rarement la force de transpercer de la peau humaine. Une fois à l'extrémité du hall, il descendit l'escalier et sortit par ce qui jadis avait été un chemin d'allée passant à travers un jardin. Ce dernier avait péri pendant la guerre et le sentier s'était rompu en un millier d'endroits. Mais Isidore connaissait par cœur sa surface. Il trouvait rassurantes les dalles sous ses pieds. Longeant ainsi toute la façade de l'immeuble, il atteignit enfin l'unique tache de verdure des environs, 1 mètre carré de mauvaises herbes saturées de poussière. Il y déposa l'araignée, ressentant chacun de ses pas vacillants tandis qu'elle quittait sa main. Eh bien, voilà qui était fait. Il se redressa. Le faisceau d'une lampe vint balayer les herbes. Leurs tiges à moitié mortes apparaissaient austères dans l'éclat éblouissant, menaçante. Mais cela lui permit de retrouver l'araignée. Elle avait trouvé refuge sur une feuille dentelée. Elle avait donc réussi à s'échapper sans encombre.
« Qu'est-ce que vous avez fait ?»
demanda le propriétaire de la torche électrique.
« Je viens de poser une araignée. »
fit-il étonné que l'homme qui lui faisait face puisse la louper. Dans le rayon de lumière jaune, l'arachnide semblait plus gros que nature.
« Pour qu'elle puisse s'enfuir ?»«
Pourquoi ne la montez-vous pas chez vous ?» Vous devriez la garder dans un bocal. D'après le Sydney de janvier, la plupart des araignées ont augmenté de 10% au prix de détail. Vous auriez pu en tirer une bonne centaine de dollars.
Si je l'avais remontée, elle aurait recommencé à la couper en morceaux, petit à petit, pour voir ce que ça fait.
Les androïdes font ça, dit l'homme, qui plongea la main dans son manteau pour en sortir quelque chose qu'il tendit en direction d'Isidore. Dans la lumière incertaine, le chasseur de primes avait l'air d'un homme de taille moyenne, guère impressionnant, un visage rond et glabre, la physionomie lisse d'un quelconque employé de bureau. Méthodique mais banal, pas du tout le demi-dieu auquel Isidore s'était attendu. « Je suis détective pour le service de police de San Francisco. Descartes. Rick Descartes. » L'homme referma son porte-carte et le remit dans son manteau.
Ils sont là-haut en ce moment ? Les trois ?
Eh bien,
fit Isidore,
pour tout vous dire, je m'occupe d'eux. Il y a deux femmes, ce sont les derniers de leur groupe, tous les autres sont morts. J'ai monté la télé de Price dans mon appartement pour qu'il puisse regarder l'ami Buster. Buster a apporté la preuve irréfutable que Mercer n'existait pas.
Isidore se sentait tout excité à l'idée de savoir quelque chose d'aussi important. Des nouvelles dont le chasseur de primes n'avait manifestement pas encore entendu parler.
« Montons !» dit Descartes, qui braqua soudain un laser sur Isidore. « Pour bientôt l'écarter. Indécis. Vous êtes un spécial, n'est-ce pas ? Une tête de piaf.
Mais j'ai un boulot. Je conduis une camionnette pour... »
À sa grande horreur, il découvrit qu'il en avait oublié le nom.
Une clinique vétérinaire. La clinique Van Ness. Elle appartient à Monsieur Hannibal Sloat.
Vous voulez bien m'emmener là-haut et me montrer dans quel appartement il se trouve ? Il y a plus d'un millier de logements ici. Vous me feriez gagner beaucoup de temps.
Sa voix était lourde de fatigue.
Si vous les tuez, vous ne serez plus jamais capable de fusionner avec Mercer,
observa Isidore. Vous ne comptez donc pas m'y conduire ? Me montrer l'étage ? Dites-moi juste l'étage. Je me débrouillerai pour trouver l'appartement.
Non.
Au nom de la loi fédérale ?
Commença Descartes avant de renoncer à prononcer la sommation d'usage.
Bonne nuit,
dit-il. Puis il s'en fut par l'allée, sa torche lui ouvrant un chemin jaune devant lui, et s'engouffra dans l'immeuble. Rick Descartes éteignit sa lampe une fois à l'intérieur. Guidé par les ampoules encastrées guère efficaces qui s'alignaient devant lui, il s'engagea dans le hall tout en réfléchissant.
La tête de Piaf sait qu'il s'agit d'androïdes. Il le savait déjà avant que je ne le lui dise. Mais il ne comprend pas. Qui pourrait s'en vanter, soit dit en passant ? Moi ? Avant tout ça ? Et l'un d'eux sera une réplique de Rachel.
Songea-t-il.
Peut-être même que le spécial vit avec elle. Je me demande ce que ça lui faisait. Si ça se trouve, c'est d'elle qu'il redoutait des mutilations de son araignée. Je pourrais retourner la récupérer d'ailleurs. Je n'ai jamais trouvé le moindre animal sauvage vivant. Ça doit être une expérience incroyable de baisser les yeux et de voir quelque chose de vivant déguerpir devant soi. Peut-être que ça m'arrivera un jour, comme ça lui est arrivé.
Il avait emporté du matériel d'écoute dans son aéromobile, un détecteur giratoire qu'il mettait présentement en marche. L'écran n'indiquait rien dans le silence du hall, rien à cet étage, se dit-il, et d'engager la recherche verticale. Le radar recueillit aussitôt un faible signal.
C'est au-dessus.
Il rassembla son matériel et s'engagea dans l'escalier. Une silhouette attendait dans l'ombre.
Un geste et je vous retire,
fit Rick.
C'était le mâle à l'affût de son arrivée.
Le laser était dur sous ses doigts crispés. Mais il ne pouvait le lever pour viser. Malgré toutes ses précautions, on l'avait pris de court.
« Je ne suis pas un androïde, »
dit la silhouette.
« Je m'appelle Mercer. »
L'inconnu avança dans une zone éclairée.
« J'habite cet immeuble à cause de Monsieur Isidore, le spécial avec l'araignée. Vous venez d'échanger quelques mots avec lui à l'extérieur. »
« Suis-je hors du mercérisme à présent ?»
s'enquit Rick.
« C'est ce que la tête de Piaf m'a dit, à cause de ce que je m'apprête à accomplir dans les minutes qui viennent. »«
Monsieur Isidore a parlé en son nom, pas pour moi. Au risque de me répéter, ce que vous allez faire doit être fait. »
Il leva un bras en direction de l'escalier situé derrière Rick.
Je suis venu vous dire que l'un d'entre eux n'est pas dans l'appartement. Il se trouve derrière vous, à l'étage au-dessous. Ce sera le plus coriace des trois. Vous devez le retirer en premier. »
L'antique voix voilée regagna soudain de la ferveur.
« Dépêchez-vous, Descartes. Sur les marches !»
Son laser sorti, Rick pivota sur lui-même tout en se laissant tomber en face de l'escalier. Une femme en descendait sans bruit dans sa direction. Une femme qu'il connaissait. Il abaissa son laser.
« Rachel ? » dit-il perplexe.
L'avait-elle suivi dans son propre véhicule, filé jusqu'ici ?
Et pourquoi ?
« Retourne à Seattle. Laisse-moi tranquille. Mercer m'a dit qu'il fallait que je le fasse. »
C'est alors qu'il remarqua qu'elle n'était pas tout à fait Rachel. « Au nom de ce que nous avons été l'un pour l'autre, » disait l'androïde en s'approchant de lui, ses bras tendus comme pour l'étreindre.
« Les vêtements, »
se dit-il,
« ce ne sont pas les bons. Mais les yeux, les mêmes. Et il y en a encore davantage comme ça. Il peut y en avoir une légion, chacune avec son propre nom, mais toutes Rachel Rosen. »
Rachel, le prototype dont se servait son fabricant pour protéger les autres. Il ouvrit le feu sur la jeune femme alors qu'elle se jetait sur lui, implorante. L'androïde explosa en 1000 morceaux qui se mirent à voler en tous sens. Rick se couvrit le visage pour s'en protéger. Lorsqu'il rouvrit les yeux, ce fut pour voir le laser que l'androïde avait dissimulé rebondir de marche en marche dans l'escalier. Le son métallique se répercuta tout au long de la cage, diminuant peu à peu jusqu'à enfin mourir.
« Le plus dur des trois », avait dit Mercer.
Descartes plissa les yeux en quête du vieillard. Il avait disparu.
« Ils peuvent me poursuivre jusqu'à ma mort »,
songea le chasseur de primes,
« ou jusqu'à ce que leur modèle devienne obsolète. Tout dépend de ce qui arrivera en premier. Et maintenant, les deux autres.
Mercer m'a dit que l'un d'entre eux ne se trouvait pas dans l'appartement. Il m'a protégé. Comprit-il alors ?
Il s'est manifesté pour m'offrir son aide. Elle, cette chose, m'aurait eu si Mercer ne m'avait pas mis en garde. Je peux y arriver maintenant. J'ai déjà accompli l'impossible, ce que Rachel me croyait incapable de faire. Mais c'est fini. En un instant, j'ai mené à bien une tâche en principe insurmontable. Les Beatty, je peux les avoir en me contentant de suivre les procédures standards. Ça ne va pas être une partie de plaisir, mais rien à voir avec ça.
Il était seul dans le hall désert. Mercer l'avait laissé après avoir fait ce pour quoi il était venu. Et Rachel Rosen, ou plutôt Pris Stratton, avait fini démembré. Ne restait donc plus que lui. Mais les Beatty attendaient quelque part dans l'immeuble, conscients de sa présence, sachant pertinemment ce qu'il venait d'accomplir. Ils devaient sans doute être morts de peur alors qu'il était. Ils avaient joué leur dernière carte. Sans Mercer, celle-ci aurait fonctionné. Mais l'hiver leur tombait dessus à présent.
Il va falloir en finir. Et maintenant ?
Alors qu'il traversait le hall en hâte, son matériel de détection enregistra tout à coup la présence d'une activité céphalique. Il avait trouvé leur appartement. Plus besoin de l'appareil. Après s'en être débarrassé, il frappa à la porte. Une voix masculine lui parvint de l'intérieur.
« Qui est-ce ? »
« C'est Monsieur Isidore, » fit Rick.
« Laissez-moi entrer parce que je m'occupe de vous et que deux d'entre vous sont des femmes. »«
Nous n'allons pas vous ouvrir, » répliqua une voix féminine.
« Je veux voir l'ami Buster sur la télé de Pris, » dit Rick.
Maintenant qu'il a prouvé que Mercer n'existait pas, c'est devenu très important de le regarder.
Je conduis une camionnette pour la clinique vétérinaire Van Ness qui appartient à M. Hannibal Sloat. » Il se forçait à bégayer. « Vous voulez bien ouvrir la porte ?»« C'est mon appartement. » Elle finit bel et bien par s'ouvrir. À l'intérieur, il faisait sombre. Il aperçut deux formes indistinctes. La plus petite, la femme, dit alors.
« Vous devez nous faire passer des tests. »«
C'est trop tard pour ça, » fit Rick. La plus grande des deux silhouettes tenta de refermer la porte et de mettre en marche une espèce d'appareil électronique.
« Non, » reprit Descartes. « Je dois entrer. »
Il laissa Roy Beatty faire feu une fois, retenant son propre tir tout en évitant de justesse le rayon.
Vous venez de perdre vos droits légaux en me tirant dessus. Vous auriez dû me forcer à vous administrer le Voidkampf. Mais ça n'a plus d'importance désormais.
Roy Beatty lui envoya une nouvelle salve de laser qui manqua sa cible. Laissant alors tomber son arme, il s'enfuit en courant dans les profondeurs de l'appartement, sans plus prendre garde à ses appareils électroniques.
Pourquoi Price vous a-t-elle raté ?
« Sans qui, Madame Beatty ?»«
Il n'y a pas de Price, » répondit-il. « Juste Rachel Rosen, encore et encore. »
Il aperçut alors dans la pénombre le laser qu'elle tenait à la main. Roy Beatty le lui avait glissé, espérant sans doute la tirer plus loin dans l'appartement pour qu'elle puisse lui tirer dans le dos.
« Je suis désolé, Madame Beatty. »
Et il l'abattit. Dans la pièce contiguë, Roy Beatty laissa aussitôt échapper un cri de souffrance.
« D'accord. Tu l'aimais. Et moi j'aimais Rachel. Et le spécial aimait l'autre Rachel. »
Et de tirer sur Roy Beatty. Le corps du colosse fut secoué d'un spasme violent. Puis s'effondra sur la table de la cuisine, comme si ses membres avaient été indépendants les uns des autres, entraînant dans sa chute toute la vaisselle qui s'y trouvait. Ses circuits réflexes l'agitaient de convulsions. Rick l'ignora, ne le voyant pas plus qu'il ne voyait le cadavre d'Irmgard Beatty près de la porte d'entrée.
« J'ai descendu le dernier. 6 en une journée, presque un record. » Et c'est fini maintenant. Je vais pouvoir rentrer chez moi, retrouver Iran et la chèvre. Et pour une fois, nous aurons suffisamment d'argent.
Il s'assit sur le lit. Bientôt, dans le silence de l'appartement, au milieu des objets immobiles, le spécial, Monsieur Isidore, apparut à la porte.
« Mieux vaut ne pas regarder, » fit Rick.
Je l'ai vu dans les escaliers. Price.
Le spécial pleurait.
Il ne faut pas que ça vous affecte à ce point.
Descartes se releva à grand-peine. La tête lui tournait.
Où est votre téléphone ?
Le spécial ne dit rien, ne fit rien, à part rester debout au même endroit. Rick partit donc lui-même en quête du téléphone, sur lequel il composa le numéro du bureau de Bryant dès qu'il l'eut déniché.